Clémenceau n'ira pas en Inde, eh ben nous, on ira quand même. Et oui, l'Inde ne veut pas de notre amiante. C'est le monde à l'envers. Les pauvres ne veulent plus mourir pour nos déchets, alors que ça les fait vivre. Et c'est tout à fait étonnant. Pourquoi nous partons pour l'Inde aujourd'hui même? Et on va y rester quelques jours. On ira faire un tour au Bangladesh parce qu'il n'y a pas que les navires qui intéressent ces pauvres pays. Il y a aussi d'autres choses. Parmi nos déchets, par exemple, nos ordinateurs, nos téléphones portables, tous nos déchets high-tech qui font la joie des pauvres de ces pays-là. C'est un peu dommage, c'est vrai, de partir pour l'Inde alors que Bolkestein revient, vous êtes au courant, manif hier à Strasbourg, manif demain contre les directives Bolkestein, qui sont désormais présentées dans une version light. C'est intéressant de savoir qui va voter pour cette nouvelle présentation des directives de Bolkestein au Parlement européen. Qui ces élus qui vont voter ou non cette directive et qui les influence? Eh bien, c'est une occasion de retourner à Bruxelles. À Bruxelles, où il existe un certain nombre de lobbies. Vous vous souvenez, on est allé faire un tour là-bas. Eh bien, on va y retourner aujourd'hui dans là-bas si j'y suis, en route pour l'Inde et pour Bruxelles.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a accroissement des inégalités, c'est pas parce qu'il y a du libre-marché à tout craint.
Il n'y en a pas assez. Alors, en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement?
On est dans un reportage ennuyeux. Il n'y a pas de choses sexy, il n'y a pas de choses amusantes, il n'y a pas de gens avec des plaintes et des choses très émouvantes, il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a pas de mère qui arrive en hurlant sur la caméra, il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est lent. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, non?
C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème. Comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, Lobby Planète.
Flight number 2, arriving from...
Je suis Eric Veselius et je travaille avec un groupe de recherche et de campagne basé à Amsterdam qui fait des études sur le lobbying dans une façon critique qui s'appelle Corporate Europe Observatory, donc Observatoire Européen des Entreprises.
CEO. Mais ça, c'est pas un sigle tout à fait innocent.
Ça veut dire aussi PDG en anglais.
Executive Officer, PDG.
C'est un petit jeu.
Et alors là, tu nous as donné rendez-vous ici, pourquoi? Dis-nous où on est là.
On est ici sur le rond-point Schumann, c'est un petit parc pathétique.
Oui, petit parc pathétique,
c'est vrai, parce que c'est vrai, trois petit... fleurs et de la boue et des parterres.
Oui, mais c'est le cœur de l'Europe.
C'est ça, la qualité du parc est minimale, mais la qualité des bâtiments autour, qui sont autour, c'est vraiment les sièges du pouvoir européen.
Et voilà, dans le nombril de l'Europe. Place Robert Schuman à Bruxelles. Et on est au cœur de cette Europe qui nous intrigue, que nous détestons, que nous aimons, que nous voulons, que nous ne voulons plus, que nous ne voulons pas comme on nous la présente. C'est le cœur de cette Europe, c'est le centre de cette Europe, là où nous nous trouvons donc avec Eric Veselius, de ce groupe d'observateurs et de cet observatoire de l'Europe industrielle, comme il l'indique, comme je l'ai indiqué, ça fait des années que ces chercheurs observent l'influence des multinationales à travers le lobbying sur les décisions prises par le Conseil des ministres européens, où siègent les ministres des affaires européennes de chacun des pays membres, qui nomme les commissaires européens à raison d'un par pays. Ces commissaires sont chargés de différents dossiers, environnement, commerce extérieur, énergie, politique régionale, etc. Par exemple, Pascal Lamy, c'est un nom qui vous dit quelque chose, était commissaire au commerce, chargé des négociations avec l'OMC au nom de l'Europe, c'est-à-dire au nom de 400 millions d'êtres humains, sans autre légitimité que celle de ce Conseil. Et puis, il y a également à Bruxelles, le Parlement européen qui siège 10 jours par mois à Strasbourg. Le reste du temps, il est à Bruxelles. Et ce Parlement, c'est nous qui l'avons élu. Ça, ce sont nos élus qui n'ont pas l'initiative des lois, leur pouvoir se limitant à ratifier et à amender. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, c'est pas très facile à piger, mais ce que nous avons très très bien compris, c'est que là-dedans, la démocratie n'est pas très 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 directe, et les décisions qui sont prises et qui concernent nos vies quotidiennes, eh bien nous n'avons pas tellement de prise ni de pouvoir sur ces décisions, d'autant moins qu'il y a ces lobbies. Alors pour nous, dans nos pays, un pays comme la France et d'autres pays, on dit les pays latins ne supportent pas les lobbies. C'est un cliché. Il faut dire que ces lobbies sont puissants. On va se balader dans la partie visible, dans ce qui est visible. Vous pouvez faire cette visite guidée. D'ailleurs, le CIO, ces chercheurs hollandais organisent pour des chercheurs ou des journalistes une visite, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Eric Vesselius. Avant de se mettre en route et avant de partir, ce petit texte de Pierre Bourdieu, qui est en préface du livre de ce groupe de chercheurs Europe Inc., et qui dit ceci, le Pierre Bourdieu: les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. La vulgate néolibérale, orthodoxie économico-politique, si universellement imposée et si unanimement admise qu'elle paraît hors des prises de la discussion et de la contestation, n'est pas issue d'une génération spontanée. Elle est le produit du travail prolongé et constant d'une immense force de travail intellectuel concentrée et organisée dans de véritables entreprises de production, de diffusion et d'intervention. Et bien, c'est dans cette force de travail, ce qui en est donné de visible, que nous allons, avec Guy Van Til, nous balader aujourd'hui, Lobby Planète.
À ma main droite, il y a le Berlaymont. Berlaymont, c'est le nom du bâtiment. C'est là où la commission de M. Barroso a son siège. Donc là, il y a 2700 gens qui travaillent dans ce bâtiment-là.
Ils travaillent à quoi?
Ce sont les commissaires, leur cabinet et leurs équipes. Donc toutes les lois européennes sont développées ici avec la commission. Et après, le Parlement et le Conseil, qui est dans le bâtiment à gauche de nous, doivent approuver ces propositions et ils peuvent aussi amender ces propositions. Donc pour les lobbyistes qui veulent influencer la direction, le contenu des lois européennes, c'est très important de faire attention sur la Commission d'influencer des lois. Oui.
Pour eux, c'est très important d'être là dès le départ, dès que les lois s'élaborent, dès l'élaboration des lois.
Et en plus, la commission n'est pas une très grande bureaucratie. Ça semble bien grande, mais quand on compare avec des bureaucraties nationales, c'est pas extrêmement grande. Donc, il y a un problème de capacité technique pour rédiger les lois, les textes. Donc, la commission a toujours été très ouverte aux lobbyistes.
Eh oui, le mammouth européen n'est pas si gras que ça pour machiner le machin. Il y a autant de fonctionnaires pour toute l'Europe, donc, que pour une ville comme Paris ou comme Marseille. Donc, c'est une chance pour les lobbyistes qui apportent expertise, conseils à tout un chacun.
Ici, en Bruxelles, il y en a 15 000 lobbyistes.
Ah, il y a 15 000 lobbyistes ici à Bruxelles.
Oui. Et on peut dire que 2/3 travaillent pour des intérêts commerciaux des entreprises. Mais seulement 10% sont des gens qui défendent des intérêts des travailleurs, de l'environnement, des consommateurs.
10% ONG, syndicats,
oui,
et
ça.
Associations de défense.
C'est ça. Et il reste 20-30% que sont des lobbyistes, pas pour des pays, mais par exemple pour des régions ou pour des villes, des cités.
Oui, c'est que toutes les régions françaises, par exemple, sont représentées à Bruxelles. Provence Côte d'Azur, Bourgogne.
Et c'est-à-dire que tu dis qu'il y a environ 10% qui défendent, disons, des causes sociales ou environnementales. Oui. 25% qui défendent des causes d'intérêt général, la promotion d'une ville, d'une région, etc. Et puis tout le reste.
Tout le reste, d'une façon ou une autre, défend les intérêts des entreprises. C'est ça.
C'est ça.
Il y en a 300 entreprises majeures qui ont une représentation ici à Bruxelles. Par exemple, en ce square, dans les bâtiments...
Tout autour de nous, oui.
Là, il y en a British Petroleum, Philip Morris.
Donc le pétrole et les cigarettes.
Là, il y a General Electric, qui est une entreprise américaine.
Grosse industrie.
Là, il y en a Dow Chemical, DuPont, Boeing, Airbus.
Dow Chemical, nos amis de Bhopal.
Bhopal, mais oui.
Donc, ils ont des bureaux ici, dans ces bâtiments-là.
Dans ce petit rond-point qui fait face à la Commission européenne.
Oui, c'est ça.
Voilà, ainsi, lorsqu'on nous dit que des lobbies, ben, il y en a de toutes sortes, il y a effectivement des lobbies qui défendent les intérêts industriels ou financiers, mais il y a aussi des lobbies qui défendent, eh bien, les droits de l'homme, les syndicats, l'environnement, etc. On voit tout de suite que c'est vrai, sauf que c'est un cheval et une alouette. C'est une alouette de droits de l'homme, d'environnement et syndicats ou d'intérêts de certains, d'intérêts collectifs. Et puis, c'est un cheval d'intérêt industriel ou financier. Un exemple de l'influence des lobbies ou des multinationales. Éric Vesselius.
I think the best example of influence is in the treaties themselves.
Je pense que le meilleur exemple de cette influence, on le voit dans le traité lui-même.
And it looks more and more like a free trade zone. And less political union.
Ça ressemble de plus en plus à une zone hors taxe et de moins en moins une union politique.
And in a sense, that's the best result that corporate interests could have had.
Et c'est dans certains sens, c'est ce que les intérêts des entreprises pouvaient espérer de mieux.
For many people, the link between what happens in their country and the European level is not so clear.
Pour beaucoup de gens, ils n'arrivent pas bien encore à voir le lien entre ce qui se passe, la situation dans leur pays et les décisions qui sont prises au niveau européen.
I think therefore the debate in France is so interesting, for example on the Bolkestein directive, where people suddenly get the opportunity to see that what happens at the European level has a very clear impact at the national level.
C'est pour ça que je pense que tout le débat qu'il y a en France en ce moment autour de la directive Bolkestein sur la libéralisation des services, ça montre bien comment les gens peuvent se prendre conscience de ce qui est décidé à Bruxelles ici, avoir des conséquences dans leur vie quotidienne en France.
C'est ça, parce que je pense que la plupart des Européens, des 25 pays européens, ne voient pas le lien entre ici, où nous sommes, Bruxelles et leur vie quotidienne.
Oui.
C'est ça la question. Alors, est-ce que tu crois que ça a été volontaire de dissocier Bruxelles et l'Europe?
C'est utile pour des gens qui sont dans les gouvernements nationaux. C'est très utile. ils peuvent toujours dire, ah, c'est une décision européenne, il faut diminuer le déficit du budget national.
C'est une directive européenne, on n'y peut rien, quoi. Ça vient du dessus.
Mais ce sont les ministres qui ont dit, ok, on fait ce...
On fait cet accord.
Oui. Donc, ils sont complices.
Avoir à sa portée les dernières nouvelles de marché du monde entier. Des analyses à toute heure et le point de vue des décideurs. Vous en avez rêvé ? Bloomberg Télévision l'a fait. Une analyse et une couverture complète des marchés.
Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, radio-télévision publique belge. Je me suis occupé pendant 35 ans de l'Europe, tout ce qui est sommet, conseil de ministre, et surtout au travail fait autour de l'Europe par les lobbies industriels.
Jeune retraité Gérard de Sélis, ex-journaliste de la RTBF, voilà des années que ce vrai journaliste dénonce l'influence la connexion des institutions européennes et des entreprises. Comment les institutions européennes sont de plus en plus au service des entreprises. Alors, il y a ce mot de lobbying qui est un mot que nous n'aimons pas, mais ce mot a une histoire.
Les lobbies existent depuis toujours, depuis la création du monde industriel. Ils ont commencé surtout dans le monde anglo-saxon. Et ça s'explique très bien. Pour légiférer en matière industrielle, commerciale, le législateur doit essayer de comprendre au mieux ce qui se passe dans le monde industriel. Donc il doit le consulter, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas légiférer n'importe comment. Il faut que la loi soit précise, pertinente. Et donc aux États-Unis, les lobbies, parce que les États-Unis c'est un très très grand pays, 6000 km de largeur, les lobbies se sont installés à Washington à la fin du 19e siècle pour être près du Congrès. Et pour informer le Congrès, mais très vite, ça a dérapé. C'est-à-dire que les lobbies, les industriels se sont dit, plutôt que d'informer le Congrès, on va faire les lois nous-mêmes et les proposer aux congressistes, qui vont les voter sans problème, comprennent rien aux lois techniques, donc on va s'occuper de ça. Et le même processus s'est passé en Europe au début des années 80. On a créé la table ronde européenne des industriels, pour ça et uniquement pour ça, pour légiférer avec les juristes de la Commission européenne. Et donc la table ronde européenne des industriels existe depuis mars 1983 et depuis elle ne fait que ça. Et elle va très loin parce qu'elle ne s'occupe pas seulement de rédiger la loi européenne, donc la loi qui nous concerne tous les jours. Elle donne les grandes lignes de la politique à suivre. Par exemple, en 2002, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la bonne gouvernance européenne. Que trouve-t-on dans ce livre blanc ? Que les parlements sont trop lents, mettent trop longtemps à comprendre les dispositions réglementaires élaborées par la Commission européenne, et donc qu'il faut se passer d'eux, y compris le Parlement européen qui a pratiquement rien à dire. Donc comment s'en passer ? Oh, idée de génie qu'ils ont eue, encore une fois, on a copié sur les États-Unis, on va faire des agences comme la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui est l'agence qui réglemente tout ce qui est médicaments et alimentation. Quelle est la différence entre une agence et une direction générale de la Commission européenne ? C'est que l'agence est indépendante. C'est que l'agence ne réglemente pas par directive européenne, c'est-à-dire par des lois, mais par des réglementations. Et que ces réglementations ne passent plus devant les parlements nationaux, qui ne sont pas tenus informés. Il y a déjà 10 agences européennes. On va créer probablement des agences pour tout ce qui concerne la politique ou les politiques de l'Union européenne. Une agence agriculture, une agence commerce extérieur, une agence commerce intérieur, une agence économie et finances, qui vont être installées par exemple pour l'agence développement. Ce sera probablement à Montpellier en France. L'agence agriculture Parme, la ville italienne, est candidate. Donc tout est déjà préparé. Une fois que ces agences seront créées, il n'y aura plus aucun contrôle démocratique sur la politique de l'Union européenne. Plus aucun. Et tout ça est en train de se préparer à notre nez et à notre barbe sans qu'on soit tenu informé.
CNBC Europe is part of the biggest financial news network in the world. accessing local business knowledge that's trusted worldwide. 87 million households, 46 countries, 24 hours a day. One world, one network. CNBC Europe. World leader in business news.
Pourtant, c'est pas ce qui manque. L'information, on en a de tous les côtés, ça nous tombe de tous les côtés. On est oppressé d'informations à longueur de temps. Et effectivement, Gérard de Sis n'a pas entièrement tort. Avez-vous souvent entendu parler de la, comment dire, théorie? Thierry, vous avez entendu parler de ça? La table ronde européenne, autrement dit ERT en anglais, European Round Table. Pas beaucoup quand même d'entre nous qui, pour qui c'est des termes courants et des notions et des informations très précises. Et pourtant, ce lobby réunit les dirigeants de 45 entreprises européennes de taille mondiale qui très régulièrement exercent, et bien, il s'agit d'un groupe de pression, exercent des pressions sur la Commission européenne à laquelle le groupe fait connaître ses attentes sur des questions de société majeures. Pas seulement sur du conseil, de l'expertise, mais véritablement oriente la politique européenne et nos vies quotidiennes. On continue cette découverte, pour beaucoup, en tous les cas pour nous, de la lobby planète avec Éric Besselius.
Ici, c'est l'avenue Quatenberg. On ne peut pas comparer avec K Street in Washington. Mais c'est une des avenues importantes avec beaucoup des ambassades des pays membres de l'Union, mais aussi beaucoup des bureaux de lobbying.
C'est vrai qu'on croise des gens qui parlent toutes les langues. Oui. On entend des petits bouts de phrases en espagnol, en italien,
danois,
en allemand.
C'est ça l'ambiance de ce quartier. On peut voir les lobbyistes et les bureaucrates sur le trottoir.
Oui, ça.
On a même une fois. On a rencontré Monsieur Bolkestein ici sur le trottoir. ça, c'est déjà une office de lobbying. Donc, c'est le télécom de l'Autriche.
La représentation à Bruxelles.
Mais aussi
l'Agence spatiale européenne.
Bougie.
Bouygues, représentation européenne de Bouygues. La conférence des notariats de l'Union européenne, etc.
La région de Stockholm,
Sud-Tirol
et le Trentin.
Donc c'est une collection des différents acteurs. Et il y en a beaucoup des bâtiments comme ça avec une microcosme du...
C'est assez intéressant de voir que Bouygues a une représentation européenne, mais que TF1 est un des rares médias français à ne pas avoir de correspondant à Bruxelles.
Bah, il y a Bouygues.
Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier. Des analyses à toute heure et le point de vue des décideurs.
One of the examples where you have the clear effect of what happens here in Brussels on daily people's life is the chemicals directive.
Ouais, so un exemple vraiment de ce qui se décide ici à Bruxelles et qui a un impact sur la vie des gens, c'est par exemple les directives sur tous les produits chimiques.
So that's a proposal which was launched by the European Commission a few years ago.
C'est une proposition qui a été lancée par la Commission européenne il y a quelques années.
To have a system of registration and evaluation of all chemicals that are on the market in Europe.
Un système pour répertorier et enregistrer tous les produits chimiques qui sont utilisés par les industries européennes.
Because right now only 10% of the chemicals that are used, it is known what is the effect for human health, for the environment. For the rest, we just don't know.
Parce que il y a simplement 10% des produits chimiques qui sont utilisés en Europe dont on connaît les impacts et les répercussions sur la santé publique, sur l'environnement. Tous les autres produits qui sont utilisés n'ont pas été étudiés pour savoir quelles auraient été les conséquences. Et pourtant, on les utilise massivement.
Et alors,
I think this is a good European initiative, which I would defend. But the chemical industry has started a fierce lobby to undermine the proposal of the commission, etc.
Donc, par principe, cette décision européenne est une bonne décision qui permet de mettre à plat tout l'usage des produits chimiques et de leurs conséquences. Simplement, ces mêmes industriels de la chimie ont déployé des efforts incroyables de lobbying pour justement enlever tout un tas de produits de cette liste et la rendre inefficace, cette directive, pour évaluer les risques encourus par l'usage de produits chimiques.
Ici, c'est un autre bâtiment.
Un autre building.
Mais ici, il y a BASF.
BASF.
L'entreprise chimique de l'Allemagne, qui a joué un rôle très important dans le lobbying contre cette initiative de REACH.
De directives sur les produits chimiques, sur l'évaluation des produits chimiques.
For example, one of the things that it did was coordinate with the chemical industry federations in France, Germany and England.
Et c'est donc une campagne qui a été coordonnée depuis ici Bruxelles à travers toutes les fédérations de l'industrie chimique, surtout les syndicats de l'industrie chimique dans les différents pays en Europe.
What they did was they published figures on the amount of unemployment which would be generated if the REACH would be accepted.
Et l'argument qui a été utilisé, c'est qu'ils ont dans chaque pays montré les chiffres, voilà le nombre de chômeurs que vous allez créer si vous faites passer cette décision européenne qui va restreindre notre production de produits chimiques, donc l'emploi.
They warned that it would cost millions of jobs in those countries. So for example, Blair, Schröder and Chirac wrote a letter to the commission saying, well, you can't continue with this, we have to reconsider the plans.
En montrant ces chiffres, ces millions de chômeurs en plus, Blair, Chirac et Schröder ont dû écrire à la Commission européenne, ont dit il faut que vous revoyiez votre copie, c'est pas possible qu'on crée autant de chômeurs.
But last week a report was released which was done by KPMG, a big accountancy. And that report concludes that the figures given by industry were completely exaggerated.
Et là, la semaine dernière, il y a un grand cabinet de conseil, KPMG, qui a fait une étude qui a montré que ces chiffres qui avaient été présentés par les industriels de la chimie en brandissant les menaces pour les emplois étaient complètement faux. Ah.
Gas emissions, and only one kind of power can deliver them both. That's why ESSO spends more on independent climate and energy research than any other company.
Lobbying à Bruxelles, industrie de la manipulation, qui essaye évidemment de se présenter autrement, qui lorsque j'emploie une expression comme celle-là, manipulation, ricane, et dit vous caricaturez, vous exagérez, etc. Je crains que nous n'exagérions pas suffisamment. En tout cas, ces informations sont rares sur les manipulations, sur l'influence, sur le poids de ces lobbies qui défendent, on le disait, aux deux tiers des intérêts exclusivement industriels et commerciaux et qui contribuent à faire la loi, et parfois même directement. Exemple par Gérard de Sélis.
Moi, en cherchant, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un avocat qui travaillait pour un lobby, le lobby de la reproduction, donc tout ce qui est reproduction de musique, la reprographie en fait. Et tout fier, il me montre une proposition de directive qu'il a rédigée pour le monde de la reprographie. Et il me dit, tu vas voir, ils vont l'adopter sans changer une virgule. Et on a attendu 3 mois, et effectivement, les ministres européens ont adopté la directive écrite dans un bureau privé ici à Bruxelles, telle qu'elle, sans avoir changé une virgule. Une directive écrite par l'industrie. Bon, j'ai expliqué ça dans ma radio, puisque j'étais journaliste radio. J'ai expliqué ça. Je suis revenu sur la chose. J'ai expliqué aux gens en quoi ça leur coûtait cher, en quoi ça leur coûtait plus cher, etc. Donc, on peut expliquer, mais vraiment secteur par secteur, en quoi la législation européenne et les volontés des lobbies qui sont derrière nous touchent quotidiennement. Je ne fais plus confiance aux médias traditionnels, sauf exception. Ils ne font plus correctement leur boulot d'information, de décryptage, de mise en situation, d'explication. Voilà, telle directive est prise, elle peut avoir tel effet sur vous, sur votre vie de tous les jours.
Lobby Planet, balade dans la planète des lobbies à Bruxelles, dans ce qui est visible encore une fois, hein, c'est dans la rue, il suffit de regarder, d'ouvrir une porte, d'aller voir les boîtes à lettres dans le hall d'un building, c'est ce que nous faisons avec un chercheur critique, très critique, Eric Besselius.
Donc ici, nous en Norton. Donc on va entrer dans le lobby. Ici, un autre microcosme du lobbying. Donc les deux étages supérieurs, c'est Hill & Norton, one of the biggest public relations and public affairs companies.
C'est du public affairs et public relations, c'est-à-dire c'est conseiller qui aide une entreprise ou une société à intervenir et à faire promouvoir ses idées sur le marché européen à travers les médias.
In the third and the fourth floor is Burch & Marsteller and their public affairs arm BKSH.
Le troisième et quatrième étage, c'est un autre de ces grands cabinets d'influence qui s'appelle Burch & Marsteller. Et leur branche qui est sur les affaires public affairs, c'est-à-dire la politique.
Relations gouvernementales.
Voilà, relations gouvernementales.
Also, an office of an individual company, Unilever, food company, big food company.
Unilever, une des plus grandes multinationales au monde, qui plaide sa propre cause elle-même.
A very interesting organization is this one.
Ça, c'est une organisation qui est très intéressante, BSEF.
Bromine Science and Environment Forum.
Le forum pour la science et l'environnement sur le brome. Mm-hmm.
Alors, attendez. Le brome, il faut que vous sachiez, pour qu'on comprendre ce qui va être dit, ce qu'est le brome. Alors, on a regardé dans notre gros dictionnaire, et on a lu ceci. Le brome est un élément atomique halogène. C'est un gaz rougeâtre et suffocant, toxique, extrait des eaux marines et des marais salins, qui entre dans la composition d'insecticides, d'herbicides et de produits de nettoyage.
You might think that this is kind of an alliance of scientists and environmentalists who are concerned with the effects of brome.
On pourrait croire que c'est une réunion, un gros groupement de scientifiques et de d'environnementalistes, puisqu'on parle de forum environnemental, qui sont soucieux des conséquences que peut avoir l'usage du brome.
But if you are here, you see that they're on the same floor as Burch & Marsteller.
Mais si on regarde là, on voit qu'ils sont au même étage qu'une grande compagnie de lobbying.
Mm-hmm. And in effect, the only members of the organizations are the four big producers of bromine.
Or, il se trouve que
only four industries.
Les quatre principaux membres de ce forum pour la science et l'environnement sur l'usage du brome sont les quatre principaux producteurs de brome.
And they have established here in Brussels because at the European level there was an initiative to forbid certain substances made out of brome.
Et ils sont présents ici à Bruxelles parce qu'il y avait des projets de loi et de directives européennes visant à interdire certain nombre de produits dérivés du brome pour des raisons d'environnement.
They have campaigned, they present themselves as a kind of an organization that fosters scientific research to create real scientific facts on the effects of these substances.
Et donc ils ont fait une très forte campagne en se présentant comme une organisation qui amène des faits, des données scientifiques sur cette question-là.
And in fact, it doesn't even exist, the organization, because the whole organization is run by employees of Burch & Marsteller. So basically, all the money of BSEF goes through Burch & Marsteller.
Et en fait, cette organisation n'existe même pas. Le forum en sciences et d'environnement pour le brome n'existe même pas, puisque tous ceux qui travaillent pour ce cabinet de lobbying et d'audit qui s'appelle Burch & Marsteller, et tout l'argent va dans les poches de ce cabinet.
So it's an alliance of those four big bromine producers, which is practically run, the political work here in Brussels is practically run by this company, Burch & Marsteller.
Donc, financé par les quatre principaux producteurs de brome, ce cabinet, en réalité, mène la politique européenne sur ce produit chimique qui peut être dangereux.
Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ce que tu dis est ennuyeux. Tu comprends? C'est ça qui est très malin. C'est que c'est ennuyeux. Et pour des reporters, pour les gens qui font du reportage, on est dans un reportage ennuyeux. Il n'y a pas de choses sexy, il n'y a pas de choses amusantes, il n'y a pas de gens avec des plaintes et des choses très émouvantes, il n'y a pas d'enfants qui pleurent, il n'y a pas de mère qui arrive en hurlant sur la caméra. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Non. C'est lent. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, non? C'est cette opacité, ces obstacles, ces difficultés.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on amène des gens ici Parce que quand je raconte cette histoire dans une salle, c'est même plus ennuyeux.
Encore plus ennuyeux. Ah oui, là, c'est un peu vivant. Oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Vous avez inventé...
Essayez de transmettre un message qui est bien difficile de transmettre.
En faisant cette visite guidée, ce lobby planète, dans la lobbycratie de Bruxelles, ce que vous appelez.
Oui.
What about this announcement from Rodia? Obviously the fact that you're up against the requirement for a
sign. And then she's decided to run on
biotechnology and financement of the president.
Alors, ces lobbyistes, tous des salauds. On a trouvé les méchants, on a trouvé les vilains, on a trouvé ceux qui sont au service des dominants. Je rappelle la phrase de Bourdieu, les dominants peuvent compter sur des milliers de complicités spontanées ou appointées, comme celle des dizaines de milliers de professionnels du lobbying qui, à Bruxelles, hantent les couloirs de la Commission, du Conseil et du Parlement. Qu'en pense Gérard de Sélis? Je rappelle qu'il a été pendant des années ex-journaliste de la RTBF, de la radio-télévision belge, et qui pendant des années et des années s'est penché sur les institutions européennes de plus en plus au service des entreprises. Qui sont ceux qui collaborent à tout cela? Gérard de Sélis.
Est-ce que ceux que tu as rencontrés au cours de ces années qui travaillent dans ces boîtes de lobby, est-ce qu'ils approuvent? Est-ce qu'ils sont des militants zélés? Ou bien est-ce qu'ils font ça parce que c'est un job plutôt bien payé et une situation plutôt enviable?
Je ferai un parallèle entre eux et les fonctionnaires de la Commission européenne. Ce qui se pratique beaucoup, et dans les lobbies, et à la Commission, c'est on fractionne tellement le travail des gens qu'ils ne savent pas exactement à quoi sert leur travail quotidien, vers où il va. Mais quand on met tout ensemble, on se rend compte que ça va dans une direction bien définie. Et donc, ce qui m'est arrivé souvent, par exemple, sous le règne de Madame Cresson, commissaire à l'éducation à son époque, c'était de préparer la marchandisation de l'enseignement européen, donc de mettre des fonctionnaires européens à la tâche, mais chacun ignorait totalement ce que faisait l'autre. Et quand j'ai compris ce qui se tramait, j'ai été tous les trouver les uns après les autres en disant « Voilà ce que fait votre collègue, voilà ce que fait votre... » Ils étaient révoltés. Scandalisés, parce que c'était absolument pas leur intention. Et dans les lobbies, c'est la même chose. Vous avez des braves juristes qui font un travail tout à fait pointu, mais pas d'ensemble, et qui ne se rendent compte absolument pas du résultat final. Parce que le résultat final, qui il met ensemble? Mais ce sont les grands patrons de ces lobbies. Ce sont les directeurs généraux de la Commission européenne. Ce sont les cabinets de commissaires européens. Eux savent ce qu'ils font.
Les méchants, c'est eux, voilà.
Mais la règle,
voilà les méchants.
Depuis le discours de Jacques Delors devant le Parlement européen en janvier 1985 sur le grand marché, la règle d'or en Europe, comme aux États-Unis, c'est que c'est le marché. On parle de démocratie de marché, n'est-ce pas? Donc, le meilleur moyen d'être démocrate, et que la démocratie fonctionne bien, c'est de la laisser conduire par le marché. Quand on voit ce que le marché provoque comme catastrophe, comme guerre, etc., on peut se poser des questions, mais c'est la règle d'or. Et Jacques Delors, en 85, avait annoncé donc la volonté de la Commission de créer le grand marché en Europe, en annonçant à la clé, dans le même discours, la création de millions d'emplois. On laisse faire les entreprises, vous allez voir, elles vont créer des millions d'emplois. Ceci dit, un rapport interne à la Commission européenne, quelques mois plus tard, a dit exactement le contraire, mais on n'a pas publié le rapport. Donc, c'est une sorte de credo général, qui gagne même le monde socialiste, des gens qui devraient être en première ligne pour défendre le service public, le service au public, qu'on paye le même prix dans la campagne éloignée pour l'électricité et l'eau qu'en ville où tout le monde est...
Bon. Ben, 1985, d'accord, on peut même penser que Jacques Delors était de bonne foi dans ses... Mais c'était il y a 20 ans. On a vu en 20 ans... imposer le libéralisme, l'économie de marché, n'a pas créé d'emploi, n'a pas répondu à la question de l'emploi.
Il y a deux siècles, Adam Smith, grand théoricien du capitalisme du début du 19e siècle, disait que c'est la main de Dieu qui répartirait les richesses. Ça fait quand même deux siècles qu'on sait que la main de Dieu est un peu paresseuse pour une juste redistribution des richesses. Mais c'est le discours d'aujourd'hui. C'est le discours.
Il y a deux bouteilles de champagne sur le bord de la fenêtre. C'est la cuvée du capitalisme. C'est des magnums de champagne, la cuvée du capitalisme. Et ça, on pouvait boire le champagne qui était dedans lors du bal du capitalisme. Vous avez fait, vous avez organisé un bal du capitalisme.
Absolument. Alors, je suis Cécile Philippe et donc je suis économiste de formation et je travaille pour le Center for the New Europe. Je suis le directeur de l'Institut économique Molinari. Alors, l'Institut Molinari, c'est un institut d'éducation et de recherche en économie. Donc, notre approche, c'est une approche de marché. On préconise les solutions de marché contre l'interventionnalisme.
C'est-à-dire que vous, vous êtes alors franchement libéral. Si on vous dit que vous êtes ultra-libéral, c'est trop?
Ça dépend ce que vous entendez par ultra-libéral. Pour moi, le ultra-libéral, ça n'a pas beaucoup de sens. On est libéral ou on n'est pas libéral. On est pour la liberté des échanges ou on n'est pas pour la liberté des échanges. Mais il n'y a pas véritablement de demi-mesure. Alors, si être ultra-libéral, c'est être pour la liberté des échanges, alors je suis ultra-libéral.
Voilà, les choses sont claires, les choses, on n'est plus là dans l'ombre, dans les choses un petit peu gênées, planquées, complexées, qui agissent par derrière, etc. Là, on y va, franchement. On est dans le Center for the New Europe, et cette jeune femme s'appelle Cécile Philippe. Il y a avec elle Xavier, qui lui aussi travaille et dans ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire, là on est plus dans tout à fait dans le lobbying, dans le think tank, c'est-à-dire dans ces boîtes à idées, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment à Washington, et qui ont pour but, ben, comme on le suppose, d'influencer, de fabriquer des idées, de faire des recherches au service de cet ultra-libéralisme franchement affiché. Vive le capitalisme, vive l'ultra-libéralisme. Et alors, bon, ce centre n'est pas... Il y en a d'autres qui s'installent, ça se multiplie. Hein, si vous voulez trouver un bon job, vous créez un think tank à Bruxelles, ça se développe. Et celui-ci, le Center for the New Europe, a quand même publié quelques douzaines de livres, plus d'un millier d'articles dans des journaux et magazines, a reçu pour des déjeuners, dîners, discussions, plusieurs centaines de membres du Parlement européen, des employés à la Commission européenne, de hauts fonctionnaires au Conseil des ministres ou d'autres institutions européennes, ainsi que des étudiants européens, des journalistes et des hommes d'affaires. Et ce think tank s'est connu sous le simple nom maintenant de CNE, CNI. Voilà, c'est un endroit tout à fait sympathique et qui milite à fond pour le capitalisme. We trade the world. Alors, parlez-nous du centre Center for New Europe.
Alors, ce centre aussi, c'est un institut de recherche. En fait, on est des think tanks, comme on les appelle, comme il y en a des milliers à Washington et comme il commence à en avoir de plus en plus à Bruxelles. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de Bruxelles comme le nouveau Washington. Nos instituts ne font pas du lobbying. On va pas voir les parlementaires ou les députés pour leur dire « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». On cherche à parler à l'opinion publique par tous les moyens possibles qui atteignent l'individu dans sa maison.
Alors vous êtes d'accord pour qu'on parle d'idéologie ?
Bien sûr.
D'accord.
On défend des idées.
Vous défendez des idées, en l'occurrence une idéologie libérale.
Absolument.
Que vous pourriez résumer comment ?
En deux mots, la souveraineté du consommateur. On veut que ce soit le consommateur qui décide, et comme chacun est un consommateur, et donc forcément les moyens dérivés, c'est la concurrence, c'est le libre-échange, c'est la liberté individuelle, sans frontières, sans barrières.
Notre philosophie a plusieurs étendards, libéral européen, pro-marché, individualiste, progressive et bien d'autres encore, nous disons simplement libéraux.
Et ce sont des valeurs auxquelles on croit, c'est la valeur du respect pour chaque individu, l'égalité devant le droit, la possibilité pour chacun de choisir pour sa vie, etc.
Alors en matière de droits sociaux, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus ?
Qu'est-ce que vous entendez par droits sociaux exactement ?
Les droits sociaux, les droits des travailleurs, les législations sur le travail, la protection sociale.
Notre thèse, celle qu'on défend, et celle qu'en fait la théorie économique nous enseigne, c'est que le libre-échange est favorable pour tous les individus, y compris les moins qualifiés, y compris les plus pauvres, que de toute façon ça bénéficie à tout le monde.
Vous luttez contre l'État-providence.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'État, on pense pas que l'État-providence est un bon moyen pour atteindre un objectif qui est super, qui est celui que nous on défend, qui est celui de la prospérité maximale pour tout le monde. Et voilà, il y a deux moyens. Alors, il y a le moyen de passer par les réglementations, passer par un petit nombre d'individus qui vont décider pour tout le monde, donc les réglementations, les cotisations obligatoires, face à, justement, des échanges volontaires entre individus qui décident de travailler ensemble, qui décident d'échanger, qui décident de circuler, etc. Et ça, ce deuxième volet, on le juge beaucoup plus efficace à la promotion de la prospérité pour tout le monde.
D'accord. Alors, comment vous expliquez que depuis 20 ans, où on voit l'application de vos théories dans la vie de plus en plus. Comment vous expliquez l'accroissement des inégalités dans nos sociétés et à l'échelle planétaire ?
Mais écoutez, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que justement, je pense pas que depuis 20 ans, on assiste à une...
Un accroissement des inégalités, pour vous, non. Il n'y a pas d'accroissement des inégalités.
Oui, si, je vous avouerai que j'aurais du mal à juger comme ça, un accroissement des inégalités. Mais ce qui est sûr... C'est que s'il y a accroissement des inégalités, c'est pas parce qu'il y a du libre marché à tout craint.
Parce qu'il n'y en a pas assez.
Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus un domaine de l'économie pratiquement qui n'a pas fait l'objet de réglementation étatique. Je ne sais même pas si on peut en citer un domaine qui n'est pas réglementé. En France, les dépenses publiques, c'est pratiquement 60% du PIB. Après, je trouve du coup que l'identification inégalité sociale égale parce que marché libre, je trouve ça extrêmement difficile à faire.
Si on avait plus de déréglementation, c'est-à-dire plus de libéralisme, on aurait moins d'inégalités.
Je pense en effet qu'on aurait beaucoup moins d'inégalités.
On vit un peu le socialisme encore pour vous, hein. Le mur de Berlin n'est pas tout à fait tombé ici.
Larvé. Un socialisme larvé. We trade the world.
Mais qu'est-ce que ça changera le jour où les lobbyistes deviendront un petit peu plus transparents, comme c'est le cas à Washington? Où c'est absolument pas un complexe, il n'y a aucune offense à être lobbyiste, bien au contraire, c'est un métier comme un autre, tout à fait normal et même tout à fait honorable. Le jour où ce sera comme ça aussi ici à Bruxelles, ça n'aura rien changé. Le libéralisme se portera aussi bien.
Clearly, transparency is not the solution to the problem of this corporate political power here in Brussels.
En tout cas, c'est clair que la transparence, c'est pas la solution pour ce pouvoir des entreprises sur l'exécutif à Bruxelles.
But we think that at the moment, it's still important to make people understand that this is a substantial problem.
And encore, pour l'instant, c'est déjà important de faire comprendre aux gens l'importance de ce problème, les questions qu'ils posent.
To convince people of the seriousness of this problem for democracy, we have to have facts.
Mais faire comprendre aux gens de l'importance de ce problème et le poids que ça pèse sur la démocratie, ce lobbyisme, il faut qu'on apporte des faits, des informations aux gens.
And for example, if the transparency legislation would provide us with the budgets of these organizations to show the finance which is behind it, the money which is behind it, I think that would help tremendously in making our case.
Et déjà, si cette directive européenne sur la transparence du lobbyisme nous permettait d'avoir des informations sur les montants qui sont investis pour ce lobbyisme, déjà, ça nous donnerait des arguments de poids.
Oui, mais on doit pouvoir défendre, j'imagine, les arguments de ceux qui défendent les lobbies. Ils disent, écoutez, c'est des influences diverses et variées qui s'exercent.
Des informations.
Parce que moi, je suis compétent pour telle ou telle chose. Oui. Ce que les décideurs ne sont pas forcément, parce que ce sont des politiques. Oui. On voit bien comment la logique du lobby peut être défendue.
Naturellement. But if you look at it from an economic point of view, for business, they can invest in, for example, in promotion material to promote their positions. They will earn the money back later if they succeed in their lobbying efforts.
Et toutes ces sociétés-là investissent, en fait, pour eux, c'est un investissement à terme ou à moyen terme dans le lobbying, en information, pour qu'ils vont récupérer plus tard, une fois que la législation qui est favorable sera adoptée.
Whereas for a non-for-profit organization, it's just, you just have to spend money.
Alors que pour une ONG,
you will not earn it back.
Cet argent qui est dépensé pour faire valoir des positions, pour des lois ou c'est un argent qui est dépensé à pure perte. Il n'y aura pas de retour sur investissement en termes environnementaux ou sociaux.
The problem with lobbying is that, yes, it's right that lobbying is a way of getting information, practical information to decision makers. That's yeah. right.
Mais c'est vrai que le lobbyisme, c'est apporter des informations. Il y a un rôle pour le lobbying d'apporter des informations techniques et concrètes.
No lobbying.
Aux décideurs, à ceux qui prennent des décisions, nous on ne dit pas qu'il ne devrait pas y avoir de lobby du tout.
But what we're saying is that if lobbying is dominating the political landscape, it's not a democracy.
Mais ce qu'on dit, c'est que si le lobbyisme domine le paysage politique, après, c'est plus une démocratie.
Une nouvelle diffusion de Lobby Planet et demain à 17h, vous retrouverez la suite de ce reportage de Vivant Thiel et Daniel Mermet pour l'émission Là-bas si j'y suis. Merci à Eric Vessilius de CIO et à Gérard de Célis. À lire, sous la direction de Eric Vessilius, Europe Inc. ou Comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale aux éditions Agon. Et de Eric de Célis, Alinéa 3, L'Europe telle qu'elle est aux éditions EPO. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Armel M. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Nguyen, assistée de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le numéro du répondeur de l'émission là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.